Bonjour et bienvenue sur l'Octet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je m'appelle Tristan Nitto et pour ce 15e épisode de la saison 2, je reçois Maïtané Lenoir qui est designer et ergonome, à la fois indépendante et salariée, oui je sais, c'est paradoxal mais on va en reparler, et aussi bénévole chez Framasoft, une association bien connue et chère à mon cœur. J'ai eu envie d'inviter Maïtané suite aux récentes journées du logiciel libre à Lyon début avril. J'ai réalisé avec horreur qu'elle faisait une présentation qui était assez proche de la mienne, dans la même salle, juste avant moi. Il se trouve que mes craintes n'étaient pas justifiées et que son contenu était fort intéressant. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve derrière un micro sur l'Octet Vert. Bonjour Maïtané.
Bonjour Tristan, bonjour à toutes et à tous.
Alors, t'as un surnom déjà, il faut peut-être commencer à le dire parce que les gens te connaissent peut-être sous ce surnom-là.
Oui, je m'appelle Maïwan, en général je dis que je suis Maïtané Lenoir alias Maïwan sur les réseaux sociaux, j'utilise les deux.
D'accord, ok. Et alors, c'est indiscret de te demander ton âge.
Alors c'est le moment où je fais le calcul, j'ai 28 ans, 28 ans.
Ouais, ça change tous les ans, c'est l'enfer, hein. C'est compliqué. et ton lieu de vie ?
J'habite à Dinan, en Bretagne. C'est une toute petite ville, c'est trop bien.
D'accord. Ah oui, et effectivement, avec le prénom, on ne s'en serait pas du tout douté que tu étais en Bretagne.
Maïtané, c'est basque, donc ça n'a rien à voir.
Non, c'est pas vrai. Bon, ok, la honte. Ok, coupé, on la refait. Voilà. Et donc, je m'appelle Tristan Nitto, et quelques secondes après le début du podcast, je viens déjà de me couvrir de ridicule. Donc.
Mais non.
Comment es-tu arrivé à prendre conscience de la crise climatique ?
Eh ben, en fait, j'y réalise que j'ai toujours su. J'ai toujours su parce que, par exemple, quand j'étais petite, ma maman, elle me disait que on n'en avait plus que pour 50 ans à avoir du pétrole, donc il y avait déjà des histoires de limites planétaires. Elle triait ses déchets. Enfin, voilà, il y avait un peu une ambiance un peu hippie écolo à la maison. Mais ce que j'ai réalisé quand j'étais adulte un peu plus tard, donc quand j'ai commencé mes études peut-être vers 17-18 ans, j'ai commencé à découvrir le concept d'oppression systémique, n'est-ce pas ? Donc le sexisme, le racisme, et après j'ai découvert qu'il y avait des connexions, le capitalisme, n'est-ce pas ? Et donc des connexions avec les problématiques écologiques. Et donc là j'ai fait, ah oui, mais en fait il y a une espèce d'énorme réseau comme ça d'oppression qui ont des effets sur les personnes et des effets sur la planète du coup. Et tout ça est intimement lié, donc ça fait un espèce d'énorme tableau très très grand, mais du coup ça m'a permis d'avoir une bonne image de toute la situation, de toute l'envergure de la situation quoi.
Et en quoi, c'est une vraie question innocente, hein, en quoi l'écologie, enfin ou la crise climatique, je sais pas comment tu veux le dire, c'est une oppression systémique ?
Ben c'est des personnes qui ont un mode de vie qui est délétère pour d'autres personnes. Parce que du coup, comme la crise climatique, ça va pas impacter toutes les parties du monde de la même façon, ça va pas impacter de la même façon les personnes pauvres que les personnes riches. On peut se dire qu'il y a une façon comme ça de vivre de certaines personnes qui est délétère pour d'autres, bah, je dis d'autres personnes, mais du coup pour les écosystèmes aussi. Et donc ça se retrouve ben, du coup dans le capitalisme, mais dans le patriarcat c'est pareil, le racisme c'est pareil, et finalement ben, puisque les parties du monde qui vont être le plus impactées par la crise climatique, c'est les parties du monde qui sont pauvres et souvent où il y a des personnes racisées, ben, on voit un espèce de topo comme ça qui est que c'est un peu toujours les mêmes qui vont s'en prendre le plus plein la gueule.
Alors là tu me fais un parallèle que j'avais pas fait avant, tu vois je suis blanc, je suis mâle, je suis cisgenre, je suis presque vieux, ouais, tu vois, j'assume pas, parce que j'ai 55 ans. Et alors, si tu veux, être racisé, c'était du genre inenvisageable, jusqu'à ce que j'aille en fait faire un service en coopération, donc à la place de l'armée, au Luxembourg. Alors ouais, ça, on n'imagine pas bien le Luxembourg comme pays en voie de développement, mais n'empêche qu'il y avait des postes de coopérants là-bas, et donc j'y étais. Et moi qui étais diplômé, etc., et accessoirement professeur, j'ai été considéré là-bas, bah, j'ai été l'immigré en fait, et j'ai été racisé. Alors, ça n'a pas été effroyable, etc. Hein, mais si tu veux, moi, français au Luxembourg, immigré, mal payé et puis prof, donc c'est-à-dire quand même, enfin c'est moins bien que diplomate banquier. Eh ben, je me suis retrouvé dans une situation en quelque sorte d'infériorité ou en tout cas mal considéré parce que j'étais intrinsèquement et non pas pour ce que je faisais. Tu vois, juste il y avait cet a priori à mon sujet, à mon encontre. J'étais moins bien, quoi, parce que j'étais pas local, j'étais pas banquier, j'étais pas diplomate, j'étais juste un prof, quoi. Et ça, ça a été une incroyable prise de conscience d'injustice, en fait. Je vais très bien, hein, merci, ça va, et ça a pas duré longtemps, etc. Mais ça a été vraiment un changement de perspective, et c'est ça que c'est intéressant. Et je me dis, mais si, tout d'un coup, si jamais il était possible de faire ressentir à des gens qui polluent, qui hypothèquent le futur de la planète, cette même injustice, mais ne serait-ce que, je sais pas, une semaine, quoi. Tu vois, une semaine où ils se retrouvent avec, parce qu'ils sont sur une île où l'eau monte, ou bien à un endroit où le climat est vachement déréglé et que ça les met en danger. Peut-être qu'ils comprendraient plus, en fait, tout simplement. En tout cas, moi, je sais que me retrouver racisé, ça a été finalement une excellente expérience parce qu'elle m'a appris plein de choses. Désagréable, certes, mais elle m'a appris plein de trucs. Donc, tu vois, c'est une bonne idée. Il faudrait qu'on mette en place des stages, tu vois, où on envoie les gens au Tuvalu dans un bateau à voile, hein, et ils voient l'eau qui monte. Parce que je rappelle, hein, les Tuvalu, c'est probablement le premier archipel qui va disparaître à cause de la montée des eaux et du changement climatique.
Enfin, en tout cas, d'expérience où tu t'es passé à un stade où tu étais regardé par les autres comme étant différent, mais maintenant, du coup, nous qui sommes blancs, on a ce stade-là, il faut imaginer, ou en tout cas, il faut écouter les personnes concernées qui racontent que bah, elles, c'est tout le temps, à chaque instant de leur vie, où elles sont regardées, jugées, elles peuvent pas avoir d'appartement facilement parce qu'on loue pas aux personnes qui sont racisées, on fait des réflexions sur leurs cheveux, enfin bref, tu en passes des vertes et des pas mûres, il y a des gens concernés qui racontent beaucoup mieux que ça, mais voilà, c'est les stages, ça parlerait de quelque chose à un niveau individuel, mais c'est tellement systémique que on pourra jamais se rendre compte de ce que c'est pour les personnes. Donc voilà, prendre conscience déjà, c'est un premier pas, et ensuite il faut aider à lutter pour que justement l'ensemble de ces oppressions, celles qu'on subit nous, par exemple moi je suis une femme, donc le patriarcat je connais assez bien, mais celles qu'on propage aussi juste parce que bah on est dans le camp des personnes qui sont privilégiées, tout ça, toutes ces choses, il faut qu'on se mette au boulot et qu'on continue à expliquer en quoi c'est un problème, pourquoi c'est un problème et pourquoi il faut que ça arrête. Et donc moi je suis en plein dedans en tout cas.
Bon, super. Et cette prise de conscience, quel effet elle a eu sur toi?
Ben, ça veut dire que j'ai commencé à revoir l'entièreté du monde, de mes relations, des actions que je faisais, au prisme de des oppressions systémiques, de est-ce que ça signifiait quelque chose. Donc du coup, c'est beaucoup de boulot parce que en fait toute notre vie, elle est complètement immergée dans les différentes oppressions systémiques, de la façon dont on interagit avec les gens, la façon dont on regarde les autres personnes. Et donc j'ai commencé un boulot à de déconstruction comme ça qui est quotidien et qui s'arrête de toute façon jamais, de prendre conscience pour éviter de propager moi aussi, de participer à ce modèle-là. Mais c'est du boulot.
Ça, je comprends très bien ce que tu veux dire par là. À titre personnel, t'as changé des trucs? T'as déjà répondu finalement à la question.
je pourrais égrener l'ensemble des choses que j'ai fait, mais finalement, ça, je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt dans mes relations. En tout cas, les personnes avec qui je relationne, c'est des personnes qui font attention aux mêmes choses. Et donc, du coup, j'ai un environnement qui est assez attentif à ça, ce qui m'aide vachement parce qu'il y a rien de pire que de commencer à militer alors que on est entouré de personnes qui ne comprennent pas le problème. Donc, du coup, ça prend une énergie de fou.
Je suis d'accord.
Voilà. Donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à interagir avec des personnes qui sont comme ça. Et puis, mon mode de vie, il va dans ce sens-là, aussi au niveau écologique où je fais attention à la façon dont je consomme, là où je vis, des choses comme ça. Mais je sais pas, c'est pas ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire que individuellement, forcément, quand on est militant, on fait des choses. Mais le but, c'est pas que je me regarde le nombril en disant ce que je fais, c'est bien, pour que la personne qui écouterait le podcast, elle se dise, ah, mais moi, je le fais pas, alors du coup, est-ce que ça signifie qu'il faudrait que je fasse plus d'efforts? Je pense que c'est pas je voudrais pas donner cette impression, en tout cas.
Ouais, enfin, moi, je peux leur dire aux auditeurs, si vous faites plus d'efforts, c'est bien quand même, hein. Tu veux qu'on parle plus du boulot à titre professionnel?
Peut-être qu'un truc personnel, c'est que j'ai mis beaucoup d'accent, moi, sur le fait de prendre soin de soi et soin des autres, qui a l'air d'avoir aucun rapport avec l'écologie ou les oppressions systémiques, mais en fait, c'est vraiment un truc de, à partir du moment où soit on se sent bien, par exemple, pour l'écologie ou pour le spécisme, ça serait bien d'arrêter de manger de la viande. Bon, le problème, c'est que si jamais vous n'êtes pas bien, vous avez de l'anxiété, par exemple, ça se traduit dans des troubles du comportement alimentaire, ce qui est à peu près mon cas, c'est vachement difficile d'arrêter la viande. Et donc, par quoi ça commence? Et comme plein d'autres choses, ça commence par prendre soin de soi pour essayer d'aller mieux. Et à partir de là, on peut faire plein de choses, on peut retrouver de l'énergie et avoir une énergie considérable pour agir sur tous les pans de sa vie, les parties personnelles, individuelles, les parties collectives. Et puis, du coup, on peut même militer à table avec un oncle qui comprend rien au sujet, c'est pas grave, on y va parce qu'on a de l'énergie pour y aller.
Ouais, alors ça c'est absolument essentiel. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont des et je pense que dans une certaine mesure je peux m'inclure dedans, on a des gens qui ont des problèmes personnels et en fait pour les se tourner vers les autres est une façon de ne pas résoudre ces problèmes personnels, mais la vérité c'est que pour être bien, pour être efficace dans son action, il faut être soi-même dans un bon état. Et donc, il faut prendre soin de soi, il faut pas s'oublier, il faut trouver cet équilibre entre je vais bien, je suis solide, et donc je vais pouvoir aider des gens dans leur combat, dans le fait qu'ils ne soient pas victimes de problèmes systémiques et en particulier de risques climatiques. Donc oui, tu vois, c'est number one, numéro un, être bien dans ses pompes pour être efficace dans les combats.
Ouais. Et faire du lien avec les autres aussi, parce que du coup, quand on est bien dans ses pompes, on peut aller vers les autres, faire du lien et les histoires de changement climatique et de société plus vertueuse écologiquement. En fait, il y a deux grandes solutions qui pourraient se détacher. Il y a la dictature, la fameuse dictature verte où on est interdit de tout, on est tous coincés et puis comme ça, on s'en sort à peu près. Ou il y a une société où on fait plus de liens avec les autres, où on s'en sort ensemble en solidarité. Et moi, clairement, je prône l'écologie, mais je prône pas l'écologie avec une dictature qui est à côté, ça fonctionnera pas. Donc du coup, commencer dès maintenant, si on arrive à faire du lien avec les gens pour être plus solidaire et robuste avec par rapport à ce qui va ou ce qui peut arriver ou ce qui arrive déjà, c'est aussi nécessaire. Et là encore, on parle de prendre soin de soi, des autres, on est toujours sur le même mood.
Oui, absolument. Et en plus, soit on est bien droit dans ses pompes, déjà la vie, elle est plus belle et ça donne aussi envie aux autres de nous suivre. On peut être un exemple, on ne l'est pas toujours, mais on peut être un exemple, mais ça part du principe qu'on est bien dans sa tête et dans ses pompes. Si on est juste malheureux, en fait, on sert surtout de repoussoir à la cause. Voilà, quelque chose à retenir à mon sens. Alors, qu'est-ce que tu fais à titre professionnel? Parce que je te vois esquiver la question.
Alors non, je l'esquive pas parce que j'adore en parler, mais si je commence, du coup, j'ai du mal à m'arrêter. Alors au début, t'as dit que j'étais indépendante et salariée et que j'allais vous raconter. Donc ouais, c'est ça en fait, je suis indépendante, c'est-à-dire que je suis designer entre guillemets à mon compte parce que je choisis mes projets, je choisis les gens avec qui je travaille. J'ai pas d'employeur, c'est moi qui gère mon emploi du temps comme je veux. J'ai une liberté j'allais dire absolue, peut-être absolue, je sais pas si vous voyez des limites, moi en tout cas, j'en vois pas beaucoup. En tout cas, dans ce que j'ai envie de faire. Et en même temps, je suis salariée parce que j'étais auto-entrepreneuse avant. Et à l'auto-entreprise, ça a cette problématique que on est seul, c'est-à-dire que si on a des problèmes de santé, on n'a pas une très bonne couverture, on n'a pas de solidarité avec d'autres personnes pour par exemple partager ce qui serait un chiffre d'affaires, si jamais on a un mois à creux, du coup on se débrouille tout seul. Et enfin, on participe pas au système de répartition plus large du salariat avec les cotisations qui permet de cotiser pour les retraites, pour la sécurité sociale, pour tout le reste. Et donc, avec des copains-copines, on a monté une structure qui s'appelle l'Échappée Belle, qui est une association. Et donc, je suis salariée au sein de l'association. Donc, dans les faits, je suis indépendante. Mais au niveau du statut, techniquement, j'ai un CDI, ce qui facilite aussi la vie quand je veux louer un appartement à Dinan. J'ai un CDI à présenter et pas une pauvre feuille d'auto-entrepreneur que personne ne comprend ce que ça signifie.
Ah, génial. Ah ouais, c'est super. Et tu cotises pour ta retraite alors aussi? Tu cotises pour le chômage?
Exactement. J'ai un CDI comme toutes les personnes connaissent le principe du CDI, quoi.
Ouais, donc en cas de pépin, t'es quand même carrément mieux couverte. La vie, elle est carrément plus simple que pour un indépendant, quoi.
Oui, par exemple, je tombe régulièrement malade, moi, depuis 3 ans. Et la première fois, j'étais auto-entrepreneuse. J'arrivais à avoir une activité que 3 heures par jour. Donc, vous voyez, pour faire la cuisine, le ménage et ensuite pouvoir travailler, c'est un peu compliqué, 3 heures par jour. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais, je crois, un mois de carence avant de toucher des indemnités. J'avais un arrêt maladie, donc ça n'avait aucun sens. Tandis que ça m'est réarrivé il y a 2 mois. Et là, je suis allée demander un arrêt maladie à mon médecin et j'en ai eu un. C'était extraordinaire. C'était un changement de paradigme totalement fou.
Alors, mais qu'est-ce que tu fais professionnellement qui soit positif au-delà de la forme d'emploi?
Alors, je choisis mes projets et donc je bosse beaucoup pour le public. Parfois, pour des projets qui ont un rapport avec l'écologie, par exemple, j'ai participé à faire un logiciel pour aider les communes et les intercommunalités à gérer leur plan d'action climat.
Ah, génial.
C'est un truc sur lequel j'ai un peu bossé. Mais sinon, globalement, je fais des logiciels pour améliorer le processus de travail des gens parce que moi, j'ai une croyance qui est que si jamais c'est un truc qui peut être fait par la machine, ça vaut pas le coup que ce soit des humains qui le fassent, autant qu'on récupère du temps libre. Donc ça me fait que j'aide à automatiser les choses et à côté je milite pour que le temps économisé ne soit pas dédié au capital, mais soit pour que les personnes elles puissent travailler moins ou faire des choses plus intéressantes ou plus importantes là où elles ont vraiment de la valeur, ce qui est des humains qui s'en occupent.
Donc le choix en fait de tes clients et de tes projets est en tant que tel un choix militant, on peut dire ça comme ça ?
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je travaille jamais pour quelque chose qui serait contre-productif par rapport à toutes les valeurs dont j'ai parlé auparavant, écologie et oppression systémique. Et au pire, ça aide juste des personnes à être mieux au travail. J'ai, du coup, ergonome, c'est expert en santé au travail. Donc voilà, c'est ça, c'est que les gens, ils se prennent moins la tête dans leur boulot et qu'ils fassent moins des choses qui soient complètement absurdes. Je peux pas vous dire que je fais toujours des trucs pour l'écologie et que c'est 90% de mon temps. Mais voilà, c'est soit des choses pédagogiques, soit des choses pour avoir des données cartographiques plus ouvertes. Vous voyez, c'est tout dans un esprit de partage. Mmh. C'est toujours un rapport un peu avec ma militance, mais c'est plus ou moins proche.
Oui, ça c'est sûr qu'on ne trouve pas 100% des contrats qui soient parfaitement alignés avec ce qu'on fait. Il y a dans tous les boulots, que ce soit un contrat ou dans un CDI, parfois il y a des trucs qui sont un peu chiants, qui ne te conviennent pas, mais bon, tu les fais parce qu'il faut les faire, quoi. C'est logique.
Alors moi, ça m'arrive quand même très très peu, c'est-à-dire que je choisis ce que je fais, mais parce que je trouve que ça a un intérêt, que c'est intéressant, que les personnes sont intéressantes. Je le fais jamais à reculons. De toute façon, j'ai déjà essayé et j'y arrive pas du tout. C'est un peu catastrophique. Ma façon de fonctionner fait que j'y arrive pas. Donc voilà, c'est à prendre ou à laisser. Donc puisque j'ai pas le choix, je suis avec moi-même, je prends. Donc je fais comme ça. Mais un autre avantage que ça, dont je n'ai pas encore parlé, c'est que comme je choisis mes clients, je choisis mon tarif journalier et que j'ai un mode de vie qui est assez sobre, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Et donc puisque j'ai pas besoin de beaucoup d'argent et que le numérique, ça paye quand même très très bien, et je travaille pas beaucoup. Et comme je travaille pas beaucoup, j'ai beaucoup de temps libre pour militer et pour agir pour des projets bénévoles qui sont très variés. Donc, tu as parlé de Framasoft au début, du coup, je suis membre bénévole de Framasoft, je m'engage dans l'asso, je participe à des projets, je participe à la vie associative interne, je donne des conférences. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on s'est vu au JDLL.
Ouais.
Mais aussi, ça m'est arrivé de participer pour faire le site de Nous Toutes, par exemple, qui est un collectif féministe qui fait beaucoup de choses en ligne. Il y a les législatives qui arrivent bientôt, donc je milite localement pour la gauche, voilà, je fais des trucs comme ça et j'ai vraiment beaucoup de temps pour le faire.
Excellent. Donc en fait, là, tu viens de nous balancer un concept intéressant, c'est la frugalité financière comme moyen d'action pour libérer du temps et faire des choses réellement au service de tes idées, on peut dire ça comme ça.
Ouais, c'est ça. Alors du coup, il y a deux pans. Il y a le fait de maîtriser son outil de travail. Donc du coup, moi, d'avoir monté l'Échappée Belle, il faudrait que je dise que l'Échappée Belle, c'est une association de loi 1901. C'est très facile à monter. On a les statuts qui sont disponibles sur GitHub et vous tapez l'échappeebelle.team et vous tombez sur le site. Vous pouvez les dupliquer. Monter votre association, il suffit de la déposer en préfecture, il suffit d'être deux. Et ensuite, vous salariez comme je le fais. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez commencer à facturer et faire rentrer de l'argent. Donc, vous êtes maître de votre outil de travail. Donc, comme ça, l'argent que vous facturez, il va pas à votre patron parce que c'est vous votre propre patron. Et ensuite, du coup, vous pouvez vous libérer du temps. Et là, effectivement, vous faites ce que vous trouvez d'utile. Et ça peut être aussi juste se reposer, prendre soin de soi, ce qui est toujours mieux que de travailler pour enrichir plus le capital.
Bah, génial. T'as quelque chose à rajouter dans ce domaine-là ou pas?
Oui, parce que à la conférence que j'ai donnée au JDLL, il y a quelqu'un qui est intervenu en disant « Oui, mais la frugalité, c'est... j'en entends pas mal parler dans les milieux militants, mais le capital, il attend que ça, qu'on réduise nos exigences de travail. » Donc, du coup, je me permets de dire, si jamais vous êtes pas, vous pouvez pas être propriétaire de votre outil de travail parce que vous vous sentez pas de monter votre entreprise, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas de négociation avec le capital. Si jamais vous êtes dans une grosse boîte qui a de la thune, vous prenez la thune. En tout cas, c'est ce que moi, je vous encourage à faire. Ou alors, vous négociez pour avoir un temps de travail moindre, vous passez à 80%, des choses comme ça. Vous demandez pas, je vous encourage pas à demander le SMIC pour bosser dans une grosse entreprise parce que la frugalité, c'est le bien. On n'est pas du tout là-dessus, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà.
Restez au même taux horaire, juste travaillez moins.
Exactement. Ou négociez votre salaire pour avoir plus et ensuite pour faire des dons, par exemple à Framasoft, voilà.
Voilà, c'est exactement. Il faut soutenir Framasoft. Il fallait le dire, tu l'as dit aussi, absolument. Quel est le plus grand défi dans la résolution de la crise climatique, d'après toi ?
Moi, je pense que c'est la politisation des gens. C'est-à-dire que j'ai discuté, là, vu qu'on est dans un entre-deux entre les présidentielles et les législatives, et que du coup, ça oblige un peu tout le monde à se positionner sur ses choix politiques. Eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent qu'il y a un problème. et qui, peut-être, ils ont pas connaissance de cet aspect systémique des choses, ou en tout cas, ils ont pas la même vision que moi, je sais pas, mais bref, ils ont pas une vision du problème que moi, je pense, claire.
Tu as dit, le problème, c'est la politisation, mais au sens de, les gens sont trop politisés ou ne sont pas assez politisés?
Non, non, ils sont pas assez, c'est-à-dire que les personnes, elles sentent qu'il y a un problème, mais par contre, pour bien avoir connaissance des enjeux et de comment est-ce qu'ils peuvent agir pour amener ces enjeux sur le devant de la scène, et ben là, c'est compliqué, et du coup, ça peut donner des choses qui sont problématiques. Par exemple, moi, un truc qui m'a beaucoup parlé, c'est les votes côté extrême droite pour expliquer que les personnes étaient mécontentes du bilan présidentiel, par exemple, qui n'a pas agi pour l'écologie ni pour le social. Et donc, les gens, plutôt que de remettre une pièce du côté libéral, ils mettent une pièce du côté extrême droite en pensant que ça sera mieux. Bah là, moi, pour moi, c'est un manque de politisation dans le sens où ces personnes-là, il faut qu'on leur explique, enfin nous qui avons une vision des oppressions systémiques, il faut qu'on leur explique que ni l'un ni l'autre n'est une bonne solution et que donc ça va rien changer d'aller d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui sentent qu'il y a des enjeux, mais qui sont perdues par rapport à la solution qu'on peut apporter parce que on a dépossédé les gens de la politique et des actions militantes depuis très longtemps. Voilà, c'est ça ma vision des choses. Donc du travail de pédagogie pour revenir à l'origine des problèmes et pour imaginer ensemble des solutions.
Ouais, ça va pas être facile parce que là où je me suis retrouvé, alors peut-être que c'était dans des conversations avec des gens peut-être plus zémouristes que lepénistes, et ce sont pas tout à fait les mêmes non plus. Hein. Mmh. En discutant avec eux, j'avais l'impression qu'en fait, s'ils revendiquaient un tel vote, c'était parce qu'ils avaient peur de perdre leurs avantages, tu vois, et que donc si on quand même vous dénoncez des oppressions, mais c'est quand même des privilèges qu'on a, quoi. Mmh. C'était très difficile à vivre, toute objectivité. C'est-à-dire que oui, effectivement, je pense que le privilège d'être raciste, c'est un privilège qui devrait disparaître.
Oui, alors effectivement, moi, j'ai pas le time de discuter avec des racistes. C'est-à-dire que si jamais les gens, ils ont un privilège et ils pensent que c'est bien, et que si jamais il y a des gens qui sont plus pauvres, et ben c'est dommage pour eux, mais tant que eux ils surnagent, et ben ça les satisfait. J'ai pas le time de discuter avec ces gens-là. Moi, je parle avec des gens qui pensent que l'égalité c'est important, qui ont envie que les choses changent, mais pour tout le monde. Je suis pas là pour convaincre les gens qui ont des privilèges que c'est intéressant pour eux qu'ils les perdent, parce que c'est pas vrai. Donc je parle pas du tout de cette frange de la population là, par contre, effectivement.
Bon, bah écoute, je prends des notes hein, pour la prochaine fois. Je vais m'épargner des douleurs inutiles. Alors, la 5G, pour ou contre ?
Eh ben, les deux, mon capitaine, c'est plutôt comment est-ce qu'on prend la décision ? Qui c'est qui décide de ce à quoi ça sert, à qui ça sert ? Ben, pour moi, il faut qu'on en discute démocratiquement, mais démocratiquement, c'est-à-dire on se met tous autour de la table ou on demande à des gens de se mettre autour de la table parce qu'on a confiance en eux et qu'ils en discutent. Voilà, moi je m'en fiche en fait de la 5G, pas la 5G ou d'autres questions. Mais le problème, c'est que c'est pas nous qui prenons les décisions, c'est des gens qui sont bien baignés dans leurs privilèges et qui estiment que c'est important. Donc bah, la 5G, c'est les opérateurs télécoms qui pensent que c'est bien qu'on ait des nouveaux téléphones et un débit encore plus rapide. Et moi, je suis pas sûre de ça, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des bons arguments pour et je suis prêt à les entendre.
Ok, bah ouais, moi l'argument que je ne pousserai pas, c'est que c'est le progrès quand même. Qui es-tu pour t'opposer au progrès?
Voilà, et donc j'espère que quand tu seras sur ton yacht et que toutes les eaux de toutes les mers du monde auront augmenté, tu seras très content avec ton progrès sur ton yacht, mais c'est exactement ça. Mais encore une fois, voilà, moi par contre, je discute avec des gens qui ont envie de discuter. Si la personne, elle arrive, elle me dit « non, mais c'est le progrès, je pense que c'est bien », bah, la personne a déjà son avis de fait, j'ai pas le temps de discuter avec elle en fait, j'ai pas le time, j'ai pas l'énergie, il y a trop de gens qui sont en galère et trop de gens qui sont perdus pour que je passe mon temps avec les gens qui sont sûrs d'eux.
Ok. Alors, qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi ?
Ah oui, il y a deux choses. Il y a le court terme. J'ai assez d'espoir qu'on ait un gouvernement de gauche qui arrive rapidement et donc qu'il y ait beaucoup de choses qui soient engagées socialement et écologiquement. Ça me donne très 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 envie. Et plus lointainement, du coup, si ce coup-ci c'est grillé, il y a, alors ça va faire vieille conne de dire ça, mais il y a la nouvelle génération, dans le sens où je vois, par exemple, au niveau féministe, des meufs qui ont 14 ans, 13 ans, et qui se laissent pas faire des choses que moi, j'ai réalisées à partir de 20 ans, 21 ans. Et je me dis, mais... Alors déjà, je me dis, on les mérite pas. En plus, je me dis, mais du coup, elles vont tout révolutionner, ça va être génial. Donc, je dis pas ça pour, en me disant, oh, bah, du coup, la jeune génération va faire le taf, c'est cool. Mais par contre, j'ai un espoir que, au fur et à mesure du temps, on monte en masse critique et que ça va nous donner beaucoup de force pour faire des choses beaucoup plus vite parce que, bah, elles sont trois fois plus rapides que nous. Donc, c'est super.
Ça, c'est marrant, cette notion de masse critique, parce que je suis retombé récemment sur une phrase de Victor Hugo qui a bien résonné en moi et qui disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu.
» Ben, moi, j'avais discuté avec des... J'étais invitée à Brest pour parler de Framasoft et j'avais parlé avec des sociologues qui m'avaient dit, lorsque j'avais discuté avec elles, j'avais dit « Mais en fait, on n'en peut plus. Combien de temps il faut encore attendre? Combien de personnes il faut encore convaincre ?» Et la sociologue m'avait répondu, alors peut-être que je me trompe dans le chiffre, mais c'était quelque chose comme « Il faut 2,9% de la population pour que la bascule se fasse. »
Je dis, ouais, comment ça, c'est une notion de masse critique, alors qui c'est n'est ça. Pas qui n'est pas chiffrée. Hein. Enfin, c'est-à-dire que ça dépend. Alors peut-être qu'il y a des travaux que je connais pas en sociologie, mais disons que ça dépend des sujets, ça dépend des contextes, etc. Mais c'est un pourcentage assez, enfin, étonnamment faible qui permet de faire basculer quelque chose. Et je pense qu'on s'en approche. Cette citation de Victor Hugo, elle est exactement là. Enfin, c'est pour ça que j'ai eu tellement de plaisir à l'entendre. C'est que, tu vois, avant même que les sociologues ne parlent de masse critique, Victor Hugo avait dit, voilà, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je pense, et avec tous les signaux qu'on voit, que effectivement, le temps est en train de venir.
Alors oui, en même temps, ça urge. Donc du coup, ce qui est embêtant, je trouve, c'est que on est, moi aussi, mais j'ai l'impression que l'écologie, c'est évident pour moi depuis que j'ai 8 ans, et pourtant ça percute pas là-haut. J'ai envie de dire là-haut, dans le sens au niveau du gouvernement. Et donc, comme on joue contre la montre, il y a un moment où on peut pas attendre que ça arrive, et c'est ça qui est vraiment très énervant. Donc il y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et ben oui, mais le temps, il met un peu trop de temps à arriver.
Le temps tarde à venir.
Exactement.
Bon, n'empêche que, comme tu disais, il y a une nouvelle génération, il y a des meufs vénères, il y a des activistes. Moi, récemment, j'ai vu Scientist Rebellion. Ça m'a beaucoup touché. Des scientifiques qui s'attachent à des portes de banque pour qu'elles arrêtent de financer les énergies fossiles, ou qui se sont collés à la superglue sur la vitrine du ministère du Développement Durable, donc je ne sais plus quel pays. Ah bon, ça bouge, quoi. C'est source d'espoir parce que on s'approche de cette masse critique.
Ouais, c'est ça. Moi, je trouve rien de plus beau qu'une meuf vénère, en fait. Hein. Les meufs qui militent comme ça et qui ont envie de casser le patriarcat, ça me... Ah là là, j'adore. C'est un vrai plaisir. Ça me redonne de l'énergie, c'est super.
Bon, alors on va passer à la question suivante. Quelle lecture tu recommandes à nos auditeurs ?
Eh ben, du coup, en parlant de politisation, vu que c'est mon mood du moment, j'ai envie de vous conseiller soit de lire le programme de la gauche qui va à bientôt arriver, ou l'avenir en commun de la France insoumise, enfin de l'Union populaire. Ça, c'est plutôt le côté politique, si jamais vous voulez être un peu énervé ou avoir plein d'idées de choses à faire bientôt. Mais plus dans le côté soin, j'ai lu récemment une BD en ligne qui s'appelle Heartstopper. C'est coup de cœur, mais c'est en anglais, donc Heartstopper. Et c'est un vrai bonbon de douceur. Donc si jamais je peux vous conseiller une lecture qui prend soin de vous et qui vous fait du bien pour parler de gens qui tombent amoureux, bah, je vous conseille ça.
Super. Alors comme d'habitude, je mettrai les liens sous l'épisode. Donc vous aurez plus qu'à cliquer pour les avoir. Et donc, une conclusion, un message court, positif, mobilisateur à faire passer à nos auditeurs.
Alors prenez soin de vous et parlez-en. Parlez-en autour de vous, parlez de vos idées, de ce qui est important pour vous, parce que voilà, politisez les autres personnes, parlez de ce qui vient, et puis peut-être vous serez surpris, en fait, peut-être que la personne, vous la connaissez pas. J'ai parlé à un voisin l'autre jour, j'ai découvert qu'il avait les mêmes idées que moi, j'aurais jamais osé lui parler de ça avant, mais j'ai tenté, et ce moment comme ça où dans les yeux de la personne, il y a une lumière qui s'allume et qui dit « mais oui, je suis d'accord avec toi », ça crée un lien entre vous qui est tellement puissant, voilà, donc parlez, passez votre temps à parler de politique, parce que franchement, il n'y a rien de plus important.
Et sinon, parler d'écologie, parce qu'en fait c'est de la politique déguisée. Donc c'est bien.
Oui, pardon, oui, politique, oppression systémique, écologie, tout ça c'est de la politique.
Yes. Super. Donc prenez soin de vous et parlez des sujets importants autour de vous. Voilà. J'ai bien résumé ?
C'est parfait.
Excellent. Eh bien écoute, c'est génial. Merci beaucoup Maïtané. C'était génial de t'avoir avec nous sur l'Octet Vert.
Merci beaucoup Tristan.